Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invitée pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invitée pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Alors, bienvenue à ce deuxième épisode de la deuxième saison du podcast On jase piano avec. Et cette année, la différence, c'est qu'on a un côté vidéo qui s'est ajouté, qui est super, super intéressant aussi de pouvoir assister ça aussi en vidéo, de voir les artistes. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de John Camphanas, qui est pianiste, que j'ai rencontré à Paris. Parce qu'on est tous les deux dans le cursus de doctorat du Conservatoire de Paris, en partenariat avec la Sorbonne. Alors, merci John d'avoir accepté l'invitation.
Ah bah, ça fait plaisir Antoine, merci beaucoup. Je suis content qu'on puisse avoir ces conversations. Je trouve que les pianistes, on s'isole beaucoup, parce qu'on joue souvent, on est souvent dans notre salle de répétition toute seule, mais là, c'est mieux de partager une conversation, oui, c'est... Je suis ravi.
Ouais. Comme à tous les épisodes, je demande comment que tu as commencé le piano.
Ouais.
Puis, c'était quoi tes premiers pas? Dans quelles circonstances? C'est quoi les circonstances qui t'ont amené à vouloir apprendre la musique ou le piano?
Je pense pour commencer à apprendre au piano, c'était mes parents qui me l'a proposé quand j'avais 5 ans. Mm-hmm. Je me rappelle, ma mère m'a demandé, John, est-ce que tu veux prendre des cours de piano? Et moi, j'ai dit, pourquoi pas? Et donc, il y a aussi mon père, il était très mélomane, il aime beaucoup la musique classique, ma mère aussi. Et donc, je pense que c'était comme ça qu'il voulait au moins qu'on soit exposé à cette musique et de même peut-être pratiquer. Le fait que ça m'a mené vers une carrière professionnelle, c'était pas peut-être le but au début,
oui.
Mais c'était à 5 ans que j'ai commencé. Et puis on a assisté à des concerts d'orchestre, des opéras, donc c'était un peu je vivais un peu avec cette musique à partir d'un très jeune âge. Donc
T'as grandi à Philadelphie, je pense.
Oui,
et ensuite t'es parti vivre à New York avant d'atterrir à Paris.
C'est ça.
Et tu as étudié à l'Université de Columbia.
Pour la licence, oui.
C'était la licence,
le bachelor.
Oui. Et Manhattan School of Music à New York.
Oui, c'est ça, pour le master.
Le master en interprétation en piano.
Oui, c'est exactement. Oui.
OK.
C'est le master en musique.
Et c'était avec quel professeur que tu as étudié?
À Manhattan School of Music, c'était avec Philip Kaywin. Mm-hmm. C'était mon professeur. Okay. Il est décédé malheureusement il y a un an, je pense. Mais en fait, c'était très important. Il était très important pour moi parce que quand j'étais à Columbia, c'est pas un conservatoire, donc j'avais pas forcément de prof. J'étais prenais des cours, pas forcément juste dans la musique, je prenais beaucoup de cours différents dans les sciences, la littérature. Donc j'avais pas décidé que je vais forcément suivre une carrière en ce moment-là, mais j'ai joué pour Philip K. Wynne et il a reconnu quelque chose en moi, il voulait me prendre comme étudiant. Et c'est lui vraiment qui m'a mené sur le chemin vers le conservatoire, vers un enseignement un peu plus spécialisé.
Oui, lui était à Manhattan School of Music.
Oui, c'est ça, oui. Mais j'ai commencé à prendre des cours avec lui un peu avant quand j'étais à Columbia. Oui. Parce qu'en fait, les deux écoles sont à côté.
Ah, d'accord.
Ils sont pas très loin.
Puis aussi en France, je pense que c'était lors d'un concours, tu avais rencontré un musicien au nom de... Mais bon, je ne le retrouve pas.
Jean Fascina.
Jean Fascina.
Oui, exactement.
Ouais.
Ouais.
Puis il paraît que lui, il y a eu aussi une grande influence sur toi par rapport au son qui était produit. Tu trouves quand tu es arrivé en Europe, il y avait vraiment un souci sur le son? Que les professeurs mettaient beaucoup d'emphase sur ça, plus que ce que tu avais vu avant avec tes autres profs aux États-Unis.
Ouais.
Et tu peux nous en parler de ce rapport-là avec ce professeur-là?
Je pourrais parler de lui des heures, en fait. C'était quelqu'un qui a complètement changé ma vie, qui a... c'est grâce à lui que j'ai eu l'invitation de venir en France. J'avais aucun projet de venir en France. C'était pas dans le plan du tout. Je parlais même pas le français, vraiment, avant. J'ai joué dans un concours en 2012. Et il faisait partie du jury. Et quand j'ai joué la première épreuve, je suis pas passé au final, mais il voulait parler avec moi, on a discuté un peu, avec un traducteur, parce qu'en ce moment, je ne parlais pas très bien le français, mais il a beaucoup aimé ma musicalité, mais il pensait que je pourrais travailler encore plus ma façon de jouer, le son, comme tu as dit. Et là, donc, il a dit, John, venez à Paris 6 mois, et on va changer des choses, mais il faut vivre à Paris pendant au moins 6 mois.
D'accord.
Donc le projet c'était juste 6 mois au début, et puis mes 6 mois c'était pas assez pour vraiment intégrer tout ce qu'ils voulaient m'apprendre. En fait, j'ai arrêté complètement de jouer des morceaux. C'était 6 mois de...
Ah oui.
On a commencé par des exercices, juste de produire un son, et j'écoute le son. J'ai passé des heures en faisant ça, à l'âge de 26 ans. Donc c'était vraiment complètement une renaissance. Une redécouverte, comme un bébé qui apprend à marcher, en fait. Et donc, ça m'a fait peur, mais en même temps, il a pris le temps de m'apprendre tout ça, qu'aux États-Unis, on ne peut pas faire. Parce qu'on a un cours par semaine.
Oui, oui.
Mon prof, il était génial, mais il avait plus que 25 étudiants inscrits au conservatoire. Il ne pouvait pas me consacrer plus qu'une heure par semaine. Et si on veut vraiment réinventer une façon de jouer, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps. Et là, Fascina, il était disponible, il voulait prendre ce temps. On avait des cours de 3 heures parfois, deux fois par semaine. Et donc, c'était assez intensif. Et après ce chemin de reformuler ma technique, il fallait après l'intégrer dans le répertoire. Donc, c'est pour ça que je voulais rester plus que 6 mois.
Ouais.
6 mois est devenu... Un an est devenu deux ans, et puis après, maintenant ça fait 10 ans.
Oui, oui. Et, lui, tu étais en privé, tu travaillais en privé.
Voilà, c'était en privé avec lui, mais dès le, je pense, deuxième année que j'étais avec lui, je me suis inscrit à l'école normale de musique.
Oui.
Donc j'avais un vrai statut d'étudiant à un conservatoire ici.
Oui, avec là, Marianne Rybicki.
Avec Marianne Rybicki, exactement.
Rybicki, oui.
C'est ça, oui.
Ouais. Super intéressant.
Ouais.
Et je me demandais, est-ce que tu as participé à des concours? Ben oui, parce que c'est là que tu as rencontré le professeur, mais est-ce que tu as fait beaucoup de concours nationaux ou internationaux?
En fait, non, honnêtement. Ce concours-là en Grèce que j'ai fait, c'était un concours international. Et on se dit que les concours aujourd'hui ne changent pas... les carrières des pianistes, forcément, si c'est pas un des grands concours,
ouais.
Chopin ou Tchaïkovski, etc. Mais pour moi, ce concours, même si c'était pas, j'ai pas eu un prix, de prix, mais le fait que j'ai rencontré Jean Fassina et qu'il m'a, il m'a invité à Paris et que j'ai trouvé une, enfin, maintenant je vis ici pendant 10 ans.
C'est un concours des circonstances.
En fait, c'était un concours qui m'a montré une nouvelle chapitre de vie, en fait, de venir ici et de. Ouais. Et donc je suis très content. Je suis.
C'est plus le concours qui a changé ta vie et que le contraire, tu sais.
Oui.
Parce que des fois, c'est ça. On fait des concours un peu pour le résultat, mais finalement, Exactement. C'est plus qu'on va y chercher l'expérience et les rencontres qu'on peut y faire.
Bah oui, c'est sûr. Et moi, bah évidemment, je voulais jouer bien. Je voulais peut-être avoir un prix.
Oui,
c'était
oui.
le but que je suis allé. Mais le fait que j'ai rencontré Fassina, c'était vraiment un moment déterminant dans ma vie, c'est sûr. Et je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait. Il est aussi décédé, malheureusement, il y a quelques années. Mais j'ai passé les 5 dernières années de sa vie avec lui,
en
cours avec lui, jusqu'à 2 semaines avant la fin. Donc c'était vraiment jusqu'au bout. Et il respirait l'enseignement du piano, l'art du piano. Ouais. C'était vraiment, même à la fin, c'est clair qu'il était assez âgé, mais dès qu'on commençait à jouer, il était comme un enfant, en fait. L'esprit jeune était là. Et ouais, je ne vais jamais l'oublier, évidemment. Et il est toujours reconnaissant d'avoir eu cette chance de le rencontrer.
J'ai vu aussi qu'en 2012, tu as fait une résidence en Inde, à Bangalore.
Ouais.
Et là, tu as eu la chance d'avoir des échanges, avec, des échanges musicaux avec les musiciens là-bas. Puis je pense que ça a résulté de, après ça, de prestations avec le Silk Road Ensemble, fondé par Yo-Yo Ma.
Oui, c'est ça, oui.
Et est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était quoi, plus précisément?
La résidence en Inde, peut-être.
Oui.
Et puis,
oui.
Mais en fait, vu que je suis aussi improvisateur, je m'intéressais toujours à toute musique. Enfin, pas juste la musique classique.
Oui.
Et j'ai eu l'occasion de collaborer avec des musiciens de toute esthétique, de tout style. En fait, j'ai commencé à développer un intérêt pour la musique indienne, parce que c'était si différent que les musiques occidentales. La façon de penser à la musique, c'était complètement différent. Et donc, oui, en 2012, j'ai un très bon ami qui habite à Bangalore. Et donc, j'ai organisé une résidence en lien avec un conservatoire occidental à Bangalore, qui m'a invité à donner des concerts, des masterclass, etc. Oui. Et quand j'étais à Bangalore, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des musiciens indiens et d'assister à des répétitions.
Et qu'est-ce que, que cette différence-là,
c'est une musique qui n'a pas d'harmonie, quoi. C'est une musique complètement mélodique.
C'est les gammes.
De la mélodie, voilà. Ouais. Des rags sont des c'est très compliqué d'expliquer toute la musique indienne, que je peux pas faire, je suis pas vraiment initié dans cette tradition. Par contre, j'ai pris un cours au Conservatoire de Paris, la musique indienne, musique improvisation indienne, donc ça c'était super intéressant.
Ah oui.
Aussi. Mais et on a joué un peu cette musique, on a appris des rags, etc.
Est-ce que c'est avec Jean-François Zigel ou
non, mais là c'est pas la musique indienne. Avec Jean-François Zigel, oui. C'était juste l'improvisation au piano. Il y a un cours de musique indienne avec un nouveau prof, Nicolas Delegue, qui vient de commencer. Et c'était super, on a appris les rags, comment jouer. Mais c'est une musique qui n'a pas d'harmonie, en fait. On pense pas.
Ok.
Dans cette manière-là.
Où on utilise la gamme.
Voilà, on a des gammes. Des,
pour faire des accords, mais.
Des gammes différentes, mais. Et chaque rag qu'on joue a des règles de mouvement, enfin des règles, voilà, on peut dire des règles de mouvement entre les notes. Et là, on improvise en utilisant ces règles.
Okay.
Et donc, c'est une façon de dévoiler le rag en jouant.
Le rag,
c'est pas entre guillemets la composition, mais c'est pas vraiment une composition, c'est plutôt
comme un reel. Nous, on disait un reel des fois.
Un quoi?
Pas un reel sur les réseaux sociaux, mais des fois, on, comme au Canada,
ah ouais, un reel,
un reel au violon, il faut jouer un reel,
oui, non, bah, c'est
une pièce folklorique.
Non, bah, non. C'est une musique qui est très ancienne, hein, qui date de, je sais pas, des plus que mille ans. Et donc, il y avait tout un développement historique et une évolution par la tradition orale. Et là, aujourd'hui... il n'y a pas de partition, par exemple. Il n'y a pas d'œuvre de musique dans la musique.
Il y a un bourdon, souvent, il y a comme une note qui est toujours derrière, là, une espèce de bourdon. Ou...
Oui, voilà. Il y a forcément des tambours au fond qui font le drone. Mm-hmm. Et il y a des notes derrière. Et puis après, on rajoute la mélodie au-dessus. Et là, on peut développer. Parfois, une rack peut durer 45 minutes. Et on improvise, on développe. Puis il y a le côté rythmique aussi, qui est très complexe. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais apprendre un peu de cette musique-là. Et donc ça m'a mené aussi à faire c'était une sorte de workshop avec le Silk Road Ensemble. Et là, j'ai joué avec quelques membres de cet ensemble. Et c'était vraiment intéressant. On avait des musiciens de partout dans le monde, réunis par le Silk Road Ensemble pour jouer ensemble, des jeunes musiciens comme moi, avec aussi les membres de cet ensemble. Et oui, c'était vraiment intéressant. Mais c'est le côté improvisation qui m'ouvre un peu.
Puis comme influence, en tant qu'improvisateur, est-ce que tu as des pianistes qui t'ont influencé?
Ah, ben oui.
Ouais.
Il y a un seul nom qui vient en tête. Ben, au tout début, j'ai entendu Keith Jarrett quand j'étais jeune. Et puis après, je me suis lancé. Hein. C'était ça qui m'a lancé quand j'ai écouté le Cohen Concert ou la Scala ou tous ces concerts de solo qu'il a fait. Même si je ne garde pas forcément son style, au début, c'était ça qui m'a juste cette... cet esprit de se lancer pendant longtemps et de juste jouer.
Un long moment musical, voilà. C'est comme un grand rag, mais...
Oui, en quelque sorte. Ouais. Et quand j'étais jeune, je me suis juste lancé aussi au piano. Et je pense que c'était pas toujours très beau d'aller écouter un jeune pianiste qui savait rien du tout, juste improviser au piano, mais mes parents ne m'ont jamais arrêté, même si ça faisait pas partie de mes études, hein, l'impro. C'était juste moi qui voulais le faire. Et donc, j'ai toujours gardé ça comme partie de ma pratique créatrice. Ouais.
Et j'imagine que la musique classique que tu as travaillé, les œuvres du répertoire, t'influence aussi dans tes improvisations.
Te
donner des clés pour tout ça. Mais c'est un mélange, je vois qu'il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste le classique,
non.
Il y a tous les genres qui viennent.
Oui, c'est sûr, c'est un peu de tout. Hein. Mais c'est sûr que mon expérience en tant que pianiste classique, de jouer les œuvres du répertoire que toi tu connais aussi, en fait, c'est ça qui m'influence beaucoup aussi. Parce que je joue, j'ai ces œuvres sous mes doigts, donc je vais forcément traduire... les textures, les sons que j'ai beaucoup joué, je vais traduire ça en impro, à ma façon. Et donc, il y avait toujours un lien, mais je sentais toujours que je vivais une double vie. Il y avait ma vie classique, il faut être fidèle à la partition, il faut jouer comme ça,
toute l'année, les mêmes morceaux,
les mêmes morceaux, il faut répéter tout le temps, coller à la partition. Et après, il y avait aussi le côté improvisation, où pas de partition, je joue ce que je sens à l'intérieur, je m'inspire de tout autour de moi, et là, c'est beaucoup plus ouvert comme expression.
C'est pour ça que ça peut être un peu rebutant, peut-être, de dire « Ah, ben là, je vais aller prendre un cours d'improvisation », parce que c'est comme si ça devenait sérieux. C'est comme si ça devenait comme... Oh, là, je peux plus faire n'importe quoi. Il faut que j'apprenne la théorie, il faut que j'améliore. Oui.
J'ai beaucoup résisté à travailler l'improvisation en raison de ça, en fait, de cette pensée que je veux que ça soit la partie de moi qui n'est pas touchée par le travail, les contraintes. Mais quand on veut vraiment travailler à l'improvisation ou avancer dans l'improvisation, il faut forcément mettre des contraintes. Donc, c'est, j'ai, dans les dernières années, j'ai commencé vraiment à travailler l'improvisation un peu plus consciemment pour que ça avance un peu plus. Parce qu'il y a quand même un travail derrière qu'on peut faire. Tous les jazzmen, tous les improvisateurs travaillent leur improvisation. Donc, c'est un peu naïf de juste dire que oh, je travaille pas l'improvisation et j'aurai tout sous mes doigts. Mais c'est ça qui m'a amené à vouloir travailler avec, par exemple, Jean-François Digel, qui j'ai passé 2 ans dans sa classe.
Est-ce que c'est parce que je sais qu'à l'époque l'improvisation, surtout les organistes, ils devaient improviser des fugues à 4 voix en direct. Hein, mais est-ce que c'est encore comme ça? Parce que c'est pas facile, là. Une fugue comme ça avec un contre-sujet.
Je pense que si l'impro... j'avais dit que je vivais deux vies, mes études classiques et le monde d'improvisation. Donc c'est clair que pour les pianistes, l'improvisation ne rentre pas dans la pédagogie pour un pianiste classique. Mais dans la pédagogie d'un organiste, je pense que c'est le seul instrument où l'improvisation reste très importante. Même aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a les organistes apprennent l'improvisation. C'est encore aujourd'hui. Donc, c'est là où l'importance de l'improvisation reste intacte, en fait. Mais pour le reste, les pianistes, tout le monde va au conservatoire, c'est beaucoup moins courant qu'on apprend à improviser. On est des interprètes. Et donc, pour moi, ce qui est fascinant, c'est de... C'est ça que, quand je voulais faire ma thèse, c'était autour de cette idée de trouver un peu plus de clarté sur cette idée du rôle de l'improvisation dans la musique classique. Parce qu'en fait, est-ce que c'était là ou pas? Et en fait, finalement, on sait que tous les compositeurs, grands compositeurs qu'on joue aujourd'hui, Beethoven, Bach, Chopin, Liszt, tout le monde, Brahms, étaient improvisateurs aussi. Et Beethoven était connu en tant qu'improvisateur avant compositeur. Il était vraiment connu pour ses improvisations. C'était ça son... son public était vraiment impressionné par ça. Il y a des témoignages de ça. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on a des interprètes qui, dès qu'il n'y a pas de partition...
Ils peuvent rien faire.
On ne peut plus jouer. Bon, je ne vais pas dire que c'est mauvais. Hein. C'est comme ça. C'est la réalité aujourd'hui. Et... jouer une œuvre de Chopin ou de Brahms ou de Rachmaninoff, c'est magnifique. Je ne vais pas critiquer ça. C'est génial. J'aime bien faire ça. Mais c'est intéressant de constater qu'on a cette séparation entre l'interprétation d'un texte et le monde d'improvisation. On n'a plus... Il n'y a plus de...
C'est plus lié. C'est deux choses différentes. C'est comme lié, un peu quand... Quand ils ont séparé les compositeurs des interprètes, qu'un compositeur ne faisait que composer et que les interprètes ne faisaient qu'interpréter, parce que ça prend tellement d'investissement de chacun. Aujourd'hui, il faut tellement pousser à un niveau extrême les deux pour que ça soit de qualité.
Et c'était aussi une évolution dans la conception de l'œuvre musicale, je pense. Y avait un moment où, au milieu, vers la fin du 19e siècle, où on voulait vraiment conserver le passé. Bach, c'était découvert par... l'intérêt de sa musique est venu de Mendelssohn, en fait. Avant ça, on ne jouait pas beaucoup de Bach. Donc, c'était dans le... à l'époque romantique qu'on commençait à vraiment construire le canon en français.
L'histoire ou le passé.
Les grandes œuvres du passé. Musée des œuvres du passé. Pour les conserver, pour les reproduire. Et là aussi, la virtuosité continuait à augmenter.
Et donc avant, parce qu'avant, les gens, ils jouaient leur musique. Et
voilà, donc avant, c'était un compositeur qui était l'interprète. Il jouait sa musique, il écrivait sa musique, et donc l'improvisation, c'était naturel. C'était complémentaire. Mais dès qu'on sépare le compositeur et l'interprète, où maintenant l'interprète doit jouer l'œuvre et essayer d'être fidèle aux intentions du compositeur, mm-hmm. là, l'improvisation devient antithétique. Mm-hmm. En fait, ça devient problématique, en fait. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est pour ça. C'était un changement de... C'était le fait que l'œuvre musicale, la conservation du passé, et c'est de ça qui est né les interprètes, les compositeurs qui étaient séparés. Et l'improvisation est un peu moins soutenue. Mm-hmm. L'art du piano est devenu un art de l'interprétation.
Oui.
Plus que l'art de l'improvisation. Mm-hmm. Sauf si on est compositeur. Si on est compositeur, on va forcément peut-être improviser.
Oui. Oui. Oui, comme Sifra, d'ailleurs.
Oui, 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 c'est ça.
Il y en a d'autres. Marc-André Hamelin aussi qui compose.
Oui, oui, c'est ça. Oui.
Des choses. T'as fait plusieurs résidences jusqu'à aujourd'hui là, dans ta carrière. Oui. Donc, on a parlé de l'Inde, la résidence aussi à la Cité des Arts de Paris, où est-ce que j'ai aussi séjourné.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on ouais. était dans le même...
Le même studio.
Ouais. Dans le même studio, oui.
Et un après l'autre. Oui. Mais juste avant, je pense que tu étais séjourné aussi à la Fondation des États-Unis à la Cité universitaire de Paris.
Oui.
J'ai aussi séjourné là, mais à la Maison des étudiants canadiens.
D'accord.
Quand oui. je suis arrivé ici.
Oui, oui, oui.
C'est vraiment un lieu, je ne sais pas si c'était au départ, quand tu es arrivé, tu es allé là directement, mais je trouve que c'est vraiment un lieu parfait pour quand on commence en Europe, on arrive. Il y a déjà tout un site, il y a des sports, il y a une cafétéria, c'est vraiment
oui,
un bel endroit.
Oui, c'était... C'est vraiment magnifique, mmh. en fait. Il y a plusieurs maisons, chaque maison liée à un pays. Donc, moi, évidemment, en tant qu'Américain, j'étais logé à la Fondation des États-Unis. Mmh. Mais au cinquième étage, c'était forcément pour les musiciens et les artistes. Et ça, c'était génial. Donc, j'étais sur un étage avec musiciens d'un côté et des artistes visuels ou des sculpteurs ou en plastique à l'autre côté. Et c'était vraiment, on avait des échanges fascinants entre les artistes, les musiciens, des collaborations aussi. Mm-hmm. Et puis, oui, à la Cité universitaire, il y a des étudiants de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment riche de rencontrer des personnes de partout.
Oui, mais tu n'es pas juste contenté de vivre là, d'étudier. Tu as aussi fondé une série de concerts.
Oui.
Rendez-vous musicaux.
Oui, en fait, c'est quand je suis arrivé, il y avait un changement de direction à la maison, aussi ouais. un changement de personnel. Mm-hmm. Et on voulait tous, je pense, redémarrer un peu le programme culturel qui était qui faisait pas, il y avait pas grand chose qui se passait à la maison américaine.
Ouais.
Et l'idée que j'ai eue avec une résidence, c'était de commencer une série de concerts. Pour les résidents, pour les musiciens en résidence. Parce qu'il y avait un grand salon de musique dans cette maison, très beau, avec un beau Steinway en plus, sur scène. Donc c'est dommage si on n'a pas de concert régulièrement. Donc on a commencé le rendez-vous musical, voilà, rendez-vous musicaux. Et c'était deux fois par mois, je pense, pendant longtemps. Maintenant, c'est une fois par mois, mais ça a commencé en, je pense que 2014 ou 2015.
2015,
oui. Et en fait, ça continue aujourd'hui.
Ça marche toujours, oui, c'est ça.
Voilà, un projet, enfin, on aura le centième rendez-vous musical en mai. Et donc, je vais revenir organiser ce centième rendez-vous musical. Et on va essayer d'inviter des anciens qui participaient. Mm-hmm. Donc ce sera un petit... on va fêter un peu cette série qui maintenant continue et qui...
Mais c'est peut-être que tu n'es plus impliqué...
Non, moi, parce que j'habite plus là, c'est plutôt ouais. pour les résidents.
Ouais.
Et aussi, il y a l'administration de la Fondation qui s'occupe de tous les concerts là-bas, oui. et les résidences aussi. Moi, je ne suis plus résident, donc je ne continue ouais. pas.
Mais il y a assez de musiciens pour que ça reste en vie.
Oui, il y a toujours, au moins, le cinquième étage, il y a, je ne sais pas, une vingtaine de studios. Donc, je pense que...
Pour les musiciens.
Oui, pour les musiciens et les artistes. Donc, à peu près 10... Je ne suis pas sûr, okay. Je pense qu'à peu près 10 musiciens et puis 10 artistes qui habitent.
Puis, comme implication, c'est quoi? C'est de... La personne, c'est elle qui invite les musiciens, fait les programmes.
Pour le rendez-vous musical?
Oui, oui.
Ben en fait, oui, je pense qu'une fois par mois maintenant. Mais oui, il y a chaque musicien, je pense, s'occupe d'un concert. Et il demande okay. qu'est-ce qu'on veut jouer, il demande à tous les résidents qu'est-ce que vous voulez jouer. Mmh.
Et après, c'est une belle expérience aussi de...
Oui, exactement, d'organiser des concerts, d'organiser un peu, voilà. Et évidemment, il y a la directrice du programme culturel qui aide aussi à faire la publicité, mm-hmm. organisation et tout aussi.
Ah, c'est super.
Ouais.
Puis c'est surtout les musiciens américains, mais il y a parfois d'autres musiciens.
Oui, il y a des invités aussi. Parfois, il y a des collaborations multidisciplinaires. Donc parfois, il y a des danseurs, je pense. Qu'est-ce qu'on a fait quand moi j'étais là, j'ai improvisé avec pendant qu'un autre résident a récité ses poèmes. Mm-hmm. Donc on a, il y a tout est possible. Hein. C'est pour animer des collaborations, c'est ça, entre résidents, entre invités, etc.
Et toi, tu as fait beaucoup de concerts dans ton parcours.
Oui.
Et tu as joué au Carnegie Hall, Atlantic Music Festival dans le Maine,
oui.
Au Beijing International Music Festival, oui. et Academy, la salle Courtauld de Paris, et j'en passe.
Oui.
Comment tu approches la scène? Comment tu gères aussi ton track par rapport à ça? Et l'anxiété, est-ce que tu fais l'anxiété performance, par exemple? Si tu veux en parler, si tu veux en parler de performance, l'anxiété de performance.
Oui, non, mais c'est...
la gestion du track.
Oui. C'est clair qu'on a tous notre propre relation avec le track, avec l'anxiété et tout. Mais je pense qu'après quelques temps, quand on joue beaucoup de concerts, on commence à comprendre au moins nous-mêmes. Et donc, je vais jamais dire que je m'habitue mm-hmm. à la scène, forcément. Mais avec le temps, je pense que j'ai compris ce que je dois faire avant un concert.
Mm-hmm.
Comment je dois me préparer, mais en fait on évolue aussi, donc en fait ça change. Donc c'est jamais statique, donc en fait c'est toujours il faut toujours essayer d'être ouvert au moment, je pense, juste que chaque concert c'est différent, faut accepter que on peut pas tout prévoir et je pense quand on accepte qu'on peut pas tout contrôler, là on peut peut-être ça libère un peu ça nous libère un peu, je sais pas,
ouais.
Mais c'est sûr que j'ai eu je devais vraiment travailler ça un peu, et ouais. Je dirais pour l'improvisation c'est complètement différent pour moi, donc. Quand je joue la musique des œuvres composées appris par cœur, c'est beaucoup plus stressant qu'aller improviser. Donc c'est une autre sorte de
c'est comme le freestyle en danse. Il y en a qui font du freestyle en danse.
Oui.
Qui arrivent.
Oui.
C'est vrai que c'est pas le même track. C'est un track qui est différent. Moi, je trouve que quand je fais de l'improvisation, ça m'arrive aussi. Et puis, ce que je trouve quand je fais de l'improvisation et que je me prépare quand même, parce que je me dis je peux pas arriver avec aucune préparation. Je me dis je fais un planning. Mais moi, c'est plutôt les gens trouvent. C'est pas assez intéressant. Ou ça c'est ennuyant. Peut-être que ça c'est ennuyant. Ou peut-être que ça c'est trop facile. C'est plus ces pensées-là que mettons.
Quand tu improvises.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus ces enjeux-là qui
m'arrivent. Oui, c'est clair qu'on sent le public, oui, c'est clair. Et puis avec l'impro, on est beaucoup plus sensible à l'espace. Parce que on est en train de créer, on répond à l'énergie dans la pièce. C'est un peu moins concentré sur « Ah, je dois jouer ça, et ça, et ça », comme on a dans de la musique composée. Là, on sait ce qu'on doit jouer. Mais avec l'impro, on écoute l'espace un peu plus. Ça rentre plus dans le... Donc oui, on est peut-être plus conscient du public. Donc voilà, non, je comprends. Mais je pense que à un moment... il faut pas faire trop attention à ça. Enfin, à un moment, on revient à la musique, ce qu'on fait, ce qu'on... On oublie un peu les réactions et tout.
Oui.
Mais il faut aussi juste... il y a toute pensée qui passe pendant qu'on joue, ça c'est vrai.
Les interférences.
C'est un peu l'art de ne pas les empêcher, parce qu'on peut pas.
Mm-hmm.
Quand je joue et j'ai fait pas l'impro, mais... Si on joue un morceau composé, on a des problèmes. Bon, on a des pensées qui circulent, mais on ne peut pas les empêcher. Mais en même temps,
s'il n'y a pas de problème, des fois, ça va bien. Puis
oui,
on
oui,
comme,
c'est ça.
Ah, là, ça va bien. Oui. Peut-être que... Est-ce que je me rappelle de ce passage-là?
Plus oui, exactement. Donc, ça, c'est...
Puis je trouve...
Ça fait partie
aussi...
de... Mais il faut juste essayer de laisser ça passer sans mm-hmm. être trop mm-hmm. affecté par ça. Donc, ça, c'est pas évident, oui.
Parce que souvent, on travaille nos pièces, on répète techniquement pour que ça soit bien, puis on peut faire ça pendant des mois, des semaines. Mais si on ne fait pas un entraînement à offrir devant un public ou se mettre en danger ou présenter ça devant des amis ou des fois des live streams, on oui. peut faire ça. Donc, on travaille jamais ce côté-là, performance live oui. devant du monde.
Oui, exactement.
C'est bien ce qu'on peut faire, mais quand on arrive en public, il y a vraiment quelque chose qui s'ajoute là. Et si on n'a pas oui. fait ce travail-là, on a beau jouer parfaitement seul dans son studio. Oui.
Mais je dirais même que, et ça c'est vrai pour moi dans l'improvisation et dans l'interprétation, je trouve, même si on a ce... c'est intensité, il y a plus d'intensité, mm-hmm. mais parfois je me dépasse, je veux dire, quand je suis devant un public. Je fais des choses que j'aurais pas pu faire tout seul, mm-hmm. en fait.
Ouais.
Donc, je pense que même si c'est plus dangereux, entre guillemets, il y a quand même...
On peut faire mieux aussi.
Ça tire quelque chose de plus, en fait, mm-hmm. de chez nous. Et donc, je trouve que les moments les plus intenses, pour moi, en jouant, c'était dans des concerts. Mm-hmm. Quand je jouais dans une situation un peu plus intense. Donc, je pense que, oui, dans le studio, tout seul, on peut jouer parfaitement, comme on veut. Mais je pense qu'avec, il y a deux côtés du médaille, je pense qu'on dit en français.
La médaille, ouais.
Ouais. Ou même si c'est plus, on a plus d'anxiété, plus de trac, il y a quand même quelque chose de...
Bonus.
De, voilà, on a... ouais. Et surtout dans l'improvisation, je trouve que parfois, mm-hmm. tout seul, j'ai pas... forcément des super idées, mais dès que je suis devant un public,
ah ouais,
ça il y a vient. Quelque chose qui se passe et j'aurais
ça pourrait être le contraire aussi. Ça pourrait
oui,
être
bah, ça pourrait... peut oui c'est sûr ça peut ouais. ça peut être oui exactement ça peut être aussi pas super oui c'est, ça ouais. c'est vrai mais le potentiel pour quelque chose de vraiment exceptionnel c'est pour moi c'est plus probable quand je suis sur scène que dans mon studio, même si dans le studio j'ai pas de track et je peux faire exactement parfaitement mmh. tous les traits techniques et tout. Ouais.
On va écouter un extrait d'une prestation de la Chaconne de Bach, l'arrangement de Ferruccio Busoni. Puis après, on en reparlera.
Oui, d'accord. Oui, très bien.
Tu peux mettre le casque.
Ouais. Thank you.
Ouais, ouais, c'est intense.
Ouais.
On peut enlever.
On a l'impression quand on joue un morceau. T'as joué ça?
Non.
Non. Quand on joue, ben, c'est pas le seul œuvre qu'on peut-être qu'on sent ce que je veux dire, mais quand on joue une œuvre comme ça, on a l'impression qu'on n'est pas la même personne à la fin.
Ouais.
C'est quelque chose, c'est comme une petite vie qu'on traverse pendant un morceau comme ça. Enfin, c'est complètement. Il y a tout un parcours d'émotions.
Quoi, c'est une pièce de. C'est quoi, ça fait 20 minutes à peu près
Pardon ?
Combien de temps ?
Ah, combien de temps ?
Au complet.
14 minutes.
Ah oui.
Oui.
On mettra le yin.
Et c'est bah, y a des moments d'arrêt, mais ouais. En général, ça continue. C'est chaconne qui continue sans arrêt jusqu'à la fin. Et voilà, c'est.
Et c'était dans quel contexte que tu avais enregistré
Ah, ça, c'était juste. Ouais, j'avais préparé ce morceau-là et puis d'autres choses aussi, je ne me rappelle pas. Ça fait quelques années maintenant que j'ai fait ce enregistrement. C'était avant le Covid, donc il y a longtemps, 2019, peut-être 2018. Et je pense que j'avais envoyé à des concours, par exemple. Mm-hmm. Et c'était aussi pour moi-même.
Ouais.
Et voilà, je pense que c'était avec cet enregistrement que j'étais lauréat du prix américain. C'était un prix en 2000, je pense, 2019 que j'ai eu.
Ah oui.
Ou 2020, 2019, je pense.
Okay.
Que j'ai eu. Où on envoie des enregistrements et puis voilà. Donc
c'est un concours en ligne.
Oui, c'est ça, un concours d'enregistrement.
D'accord. Voilà,
c'est ça.
Tu as travaillé aussi avec un chanteur lyrique, Grégoire Ichoux.
Oui.
Ouais. Puis aussi un violoncelliste, Eric Hedberg.
Oui.
Vous avez fait les œuvres du compositeur Alan Hovhaness.
Oui, c'est
compositeur
ça.
Compositeur américain.
Oui.
Et je me demandais comment tu approches la musique de chambre. Et donc de jouer avec d'autres musiciens. Est-ce que tu préfères ou tu préfères jouer en solo ou les deux égales
Bah, j'adore les deux, mais je pense plus en plus j'aime bien la collaboration. Et c'est pas juste dans la musique de chambre, mais collaboration de n'importe quelle collaboration. Ça peut être où j'improvise pour des films ou dans un projet multidisciplinaire par exemple, ou dans la musique de chambre aussi. Eric Hedberg, c'est un violoncelliste qui improvise aussi. Donc on a un duo, on joue ensemble encore, où on joue des œuvres composées et on improvise ensemble aussi.
Mm-hmm.
On fait les deux.
Oui.
Ouais.
Cool.
Et ça, il n'y a pas beaucoup de musiciens avec qui je peux faire ça. Il y a aussi un saxophoniste que j'ai rencontré à la Fondation des États-Unis. Wilson Puffenberger, qui est maintenant prof à Georgia aux États-Unis. Nous, on a fait un concert complètement improvisé, du début jusqu'à la fin. Et on avait travaillé ensemble de créer une sorte de vocabulaire à nous, dans les répétitions avant. Et puis, dans la performance, on a juste improvisé, mais en utilisant ce vocabulaire qu'on a développé un peu avant. Mais ça, c'est côté improvisation. Avec Grégoire, oui, on avait fait un enregistrement de la musique, des œuvres qui chantaient à ce moment-là. C'était du parc, c'était à Forêt, la musique française. Et là, il n'y avait pas d'improvisation. Mais oui, la musique de chambre, je trouve que la collaboration, c'est...
Et le chant, c'est une autre chose.
C'est un peu oui, c'est un peu autre chose, mais c'est quand même. Il y a une sorte de. J'avais plus récemment collaboré avec une soprano, Jennifer Linshield. On a fait un concert en mai dernier. On a fait de la musique de Aaron Copland et Charles Ives, qui est assez compliqué. Mais c'est pas juste un accompagnement. Hein, c'est aussi un. Il y a tout un échange qui se passe même entre chanteurs, chanteuses et pianistes.
Et compositeur.
Et puis un trio Enfin, je fais pas mal de choses solo, mais la collaboration, c'est toujours très important pour moi et j'espère plus en plus de trouver plus de collaborateurs, oui, toujours.
C'est la musique, c'est une musique vivante.
Oui, c'est vivant, c'est un échange de perspectives. On n'est pas juste tout seul avec nos projets, on a les idées de quelqu'un d'autre. Et parfois, on arrive à quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, en fait, quand on a une autre personne, ou deux autres personnes, ou une autre point de vue. Je trouve ça artistiquement parfois plus riche, en fait, que rester tout seul.
Ben, aussi, c'est pas la musique de genre, mais tout comme. L'enseignement, tu enseignes au Conservatoire américain de Paris.
Oui.
Depuis que tu es arrivé ici en 2013, que tu enseignes là-bas?
Non, ça c'était le Conservatoire américain. Ça a commencé en 2017.
OK. Ouais.
Et
tu as toujours eu cette passion pour l'enseignement ou c'est venu plus tard dans ta vie?
Ben, l'enseignement, j'ai... Bah, je le fais un peu comme une extension de cette idée de partager l'art de piano, en fait. Parce que c'est quoi les étudiants? Ce sont le public de l'avenir, c'est les musiciens de l'avenir, c'est des... C'est très important de cultiver la prochaine génération de mélomanes aussi.
Oui, aussi quand en concert, de parler au public.
Voilà. Ou c'est aussi de travailler, de jouer des œuvres, même si je n'ai pas beaucoup d'étudiants qui vont faire une carrière professionnelle. En fait, la majorité ne vont pas faire une carrière professionnelle. Mais plus qu'on peut faire rentrer la musique dans la vie des gens, je pense que c'est enrichissant. Donc, je vois l'enseignement comme je fais un concert pour un public. Évidemment, l'enseignement, c'est différent, mais c'est cette idée de partager et d'engager plus de personnes, de jouer de la musique, d'écouter de la musique, de participer dans l'art.
D'impliquer les gens plus dans l'art.
Exactement.
Oui, je pense que c'est important. Aller voir le musicien s'exister.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Froidement.
Donc, l'enseignement, c'est très important, je trouve. Et donc, j'ai des étudiants de tout âge, des adultes, des très jeunes, donc, et tous les âges entrent. Donc.
Et parce que aussi, tu as donné des masterclass, même des ateliers d'improvisation dans des universités aux États-Unis.
Oui, quelques-uns.
Des écoles, peut-être ici aussi. Ça, ce que t'aimes bien faire ça?
Oui, ateliers d'improvisation, un peu moins. Mais aux États-Unis, j'ai fait quelques ateliers d'improvisation. Et oui, en fait, c'était pour des musiciens. Je me rappelle, c'était il y a longtemps, en fait. C'était avant que je suis venu à Paris, plus que j'ai fait un atelier. Des ateliers d'improvisation, mais je me rappelle c'était pour des musiciens classiques et je me rappelle que au début en général ces étudiants ne voulaient pas improviser, ils avaient peur. J'ai pas de partition, je sais pas quoi faire, mais je les encourageais par des jeux de, enfin il y avait des exercices que j'ai donné pour les encourager d'improviser et puis après à la fin on avait vraiment des jeunes improvisateurs. Ils avaient trouvé une sorte d'ouverture de...
Des fois, ils se pèsaient sur la switch, mettre la switch à on. Parce que des fois, peut-être qu'ils pourraient le faire, mais ils ne savent pas
c'est
encore.
C'est ça. C'est de... En fait, là, oui, c'est le fait qu'on pense qu'on ne peut pas le faire et donc on ne se lance pas. Et c'est juste de dépasser... cette peur qu'on voit que en fait c'est pas terrible ce que je fais, c'est pas horrible ce que je fais, en fait quand on commence, même si je sais pas ce que je fais, c'est intéressant,
mais surtout
et donc
quand
on suit le chemin, donc avec des exercices on a trouvé dans ces ateliers de faire découvrir leur instrument, en fait, parce que c'est aussi pour moi une façon de découvrir l'instrument par l'improvisation. Oui, on a des œuvres qu'on peut jouer, mais aussi de trouver notre propre relation à l'instrument, c'est par l'improvisation. Et là, je pense que même pour un musicien classique ou musicien, oui, on va dire classique, c'est important l'improvisation pour plusieurs raisons. C'est l'ouverture d'esprit créatif, ouverture de leur relation personnelle avec l'instrument, et de, ça renforce un peu l'expression qu'on trouve dans les œuvres composées. Je trouve que même quand j'improvise, je trouve que ça forcément ça a un effet sur mes interprétations aussi, et le contraire aussi. Donc c'est un peu à chacun qui enrichit l'autre.
Oui, oui, oui. Et c'est ça, le fait de le faire en groupe aussi, c'est que si, mettons, nous, on improvise, puis bon, nous, ce qu'on fait, on trouve ça OK, ou c'est correct, tu sais.
Ouais.
Mais quelqu'un, un professeur ou quelqu'un d'autre fait « Ah, ça, c'est vraiment intéressant ce que tu as fait. » Oui. Des fois, ça peut être même un prof qui dit ça, puis là, tu fais comme « Ah ouais, c'est intéressant ce que
c'est
je fais. »
C'est ça. Parfois, on est très... On juge, voilà. On n'a pas le... On juge ce qu'on fait, c'est pas super, mais parfois, oui, ça prend quelqu'un d'autre qui dit « Ah non, non, mais c'est génial ce que tu as fait. » Et puis voilà, c'est important aussi de voir, de ne pas être trop, trop critique, de juste...
Oui, voilà. Pour continuer dans la même idée, on va parler un petit peu de ta thèse de doctorat au CNSM.
Oh là là, oui,
parce que ça porte sur ça. Donc, c'est le programme de doctorat dans lequel je suis aussi pour l'improvisation, mais pour Gabriel Pierney. Toi, tu as décidé vraiment d'en faire une thèse de doctorat dans le doctorat de musique, recherche et pratique du Conservatoire de Paris et à la Sorbonne Université. Donc, l'improvisation est au cœur de ton sujet de thèse. Je voulais savoir... Je m'en allais dire pourquoi l'improvisation, mais en fait, je pense que je vais enlever cette question. c'est plus précisément dans ta thèse, tu pourrais-tu nous parler un petit peu de comment tu veux, sous quel angle tu veux voir l'improvisation et en faire une thèse de doctorat, ton sujet, en fait, quel angle que tu choisis?
Oui, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est je focalise au début du XXe siècle. Après le romantisme, quand on est à l'aube de modernité, où l'expression, enfin les langages musicaux vont vraiment être dispersés partout. On va avoir un peu de tout. Le langage tonal, enfin, va pas être juste. Il y aura pas une évolution linéaire de comme on a eu avant jusqu'à mi-9e siècle, au milieu du 19e siècle. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que c'est de voir, de considérer les pianistes-compositeurs au début du 20e siècle, et c'était quoi le rôle d'une pratique créatrice au piano dans le développement de ces langages. Parce qu'on voit que l'improvisation sur scène avait un peu disparu à ce moment-là, comme j'avais dit tout à l'heure. Il y a l'art du piano est devenu un art d'interprétation plus qu'un art de création. On monte sur scène, on va voir un pianiste qui joue le morceau de quelqu'un d'autre. Donc le compositeur est séparé de l'interprète et le compositeur sont deux personnes différentes, ce qui n'était pas le cas jusqu'au Liszt en fait, effectivement. Mais maintenant qu'on a cette division, il y avait quand même des compositeurs pianistes qui ont continué à cultiver une pratique créatrice par l'improvisation, l'interprétation, donc des compositeurs qui jouaient de la musique composée, qui jouaient des œuvres du passé, et en même temps expérimentaient au piano et ont cultivé leur propre façon de jouer au piano. Et comme Charles Ives, c'est un compositeur un des compositeurs que je cible, aussi Debussy et Busoni aussi, en fait. Ces trois compositeurs font partie de mon corpus. Ce qui m'intéresse, c'est comment tous les trois ont cultivé une pratique pianistique et comment cette relation avec l'instrument leur a amené à développer leur langage unique de composition. Parce qu'en fait, tous les trois sont complètement différents dans leur style.
Ouais.
Et chaque compositeur est passé par le piano. Charles Ives aussi un peu l'orgue. Il était un peu dans les deux, mais... Tous les trois improvisateurs, tous les trois, on sait qu'ils improvisaient, qu'ils jouaient des morceaux aussi. Et ça nous amène à poser la question, c'est quoi une pratique créatrice? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'improvisation? Est-ce que c'est l'interprétation? Il y a tout un... comment on définit une pratique créatrice. Et chaque compositeur, tous les trois, ont laissé des enregistrements. Donc on peut aussi analyser leur façon de jouer, ce qu'on ne peut pas faire avec Liszt ou Bach ou Beethoven, évidemment, on n'a pas d'enregistrement. Ouais. Mais avec ces compositeurs-là, on peut vraiment écouter comment ils jouaient. Et là, ça aide aussi. Charles Ives, il a laissé beaucoup d'enregistrements où il improvise, il joue le même morceau différemment chaque fois. Donc on voit vraiment comment cette pratique improvisatrice rentre dans leur façon de jouer. Mm-hmm. Et donc c'est ça qui m'intéresse, comment, le rôle de l'instrument dans leur processus compositionnel. Voilà.
Et le monde, est-ce que c'était nouveau pour toi, le monde de la recherche?
Ah oui.
Et heureusement, c'est un programme recherche pratique, donc c'est vraiment fait pour les interprètes et non seulement pour les musicologues. Ouais. On doit être les deux à la fois.
Oui, c'est ça.
Et ton rapport à ça, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que tu as déjà fait des travaux de recherche avant? Ou c'est quelque chose que tu développes qui est récent?
Non, j'avais... quand j'étais à Columbia, on a eu un peu des projets de recherche dans les cours, parce que c'est une université un peu plus dans le monde académique. Ouais. Après, je suis passé au Manhattan School of Music, et puis après, c'était juste monde de pratique, création. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup de recherches dans les dernières années, mais c'est un sujet, l'improvisation, mon sujet-là, c'est quelque chose que c'est par la pratique que j'ai découvert ma curiosité pour ce sujet-là. Mm-hmm. Donc, je pense que c'était assez naturel que je rentre dans un programme où je peux commencer à me basculer vers la recherche aussi.
Et c'est plaisant de pouvoir faire un travail de recherche qui vient de nous aussi, parce que parfois, il y a des gens qui vont faire un contrat doctoral, ça va être un projet d'un laboratoire, déjà en place et tandis que là, c'est vraiment quelque chose qui est personnel, qui vient de plusieurs années de recherche, de travail. Donc, de juste pouvoir se pencher là-dessus à temps plein, c'est quand même... c'est un beau cadeau qu'on peut se faire.
Ah oui, non, mais...
Et qu'on peut faire après au moment de la recherche.
Absolument.
Les résultats.
Absolument. Oui, non, je suis d'accord. Je pense que chaque de nos camarades dans le programme ont leur propre chemin pianistique, ou d'instruments, c'est pas que des pianistes, c'est des musiciens, mais leur propre chemin de pratique.
Oui.
Et qui leur a mené à découvrir quelque chose qu'ils voulaient poursuivre dans le cadre d'un projet de recherche. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est fascinant de voir toutes ces perspectives assez uniques. Et je pense que... mais c'est pas peut-être évident de rentrer dans la recherche tout de suite après...
parce que c'est pas une petite thèse, c'est une vraie thèse,
projet,
un PhD.
Ça prend du temps, mais... C'est sûr que ce doctorat m'a ouvert à beaucoup de personnes, de musicologues, musiciens avec qui je peux travailler. En fait, c'est vraiment impressionnant.
C'est ce qui est bien, c'est de continuer à travailler la musique, mais avec d'autres points de vue, point de vue musicologue aussi. Ça nourrit beaucoup le musicien qu'on est aussi.
Bah exactement, comme j'avais dit avant, pour la collaboration dans le monde pratique, mais aussi quand on est entouré par des perspectives différentes, des idées différentes qui viennent de beaucoup de personnes différentes, c'est nos idées qui sont aussi enrichies, qui sont qu'on développe encore plus loin, je trouve. Donc voilà. Oui.
J'aimerais ça qu'on en écoute une de tes improvisations parce que bon, t'en as fait plusieurs, t'as des enregistrements déjà qui sont distribués sur Apple Music et tout ça. J'aimerais qu'on écoute une improvisation que tu as faite au Green Castle, c'était en Indiana.
C'est ça.
C'est ça.
Oui, oui.
Et tu peux juste nous mettre dans le contexte avant qu'on écoute.
Oui, bien sûr. En fait, c'était pendant un enregistrement que je faisais avec Eric Edberg, mon collaborateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Et entre les prises que je faisais avec lui, j'avais décidé de me lancer dans des improvisations solo. Et... Donc là, c'était, vous allez voir, les, mm-hmm. les auditeurs vont, si ils regardent sur la vidéo, vont voir qu'il y a un violoncelle dans le ouais. cadre. Donc c'est clair que j'étais pas là juste pour faire des improvisations solo. Mais là, c'est impro. Voilà, c'est, je sais pas si c'était deuxième ou troisième petite impro que j'avais faite. Et vous allez voir au tout début que je commence et puis je m'arrête. Mmh. Et puis je pense une deuxième fois je commence, je m'arrête, donc c'est clair que je trouve pas l'idée que je veux ou je n'étais pas inspiré de continuer. Donc c'est un peu ça la beauté de l'improvisation, c'est que on ne trouve pas tout de suite ce qu'on veut, mais la troisième fois j'ai trouvé une idée et puis ça lance l'improvisation de 2-3 minutes là qu'on va écouter.
On regarde, on écoute, ouais. on regarde pour ceux qui sont sur sur YouTube, on regarde, mais pour ceux qui sont juste en audio, on écoute.
Mais on peut entendre ça aussi, le fait que j'arrête et tout ça. Oui.
Thank you.
Alors, juste un petit mot. Là, c'était dans une église. Et je pense que dans les impros, on avait parlé de ça avant, quand on improvise, on est plus conscient de l'espace autour de nous. Et là, je pense que si j'étais pas dans... j'avais pas été dans une église, j'aurais jamais improvisé ce morceau-là. Donc, ce que j'aime chez l'improvisation, dans l'improvisation, c'est que on peut jamais répéter la même chose une deuxième fois. Et c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Donc, dans les concerts que je fais avec un public, ils vont écouter quelque chose inspiré de l'énergie qui existe dans la salle, qu'on a ensemble, et on va partager cette expérience, et puis on aura plus, ça n'existera plus. Et je trouve ce côté éphémère de l'improvisation qui vient vraiment de l'espace qu'on vit ensemble, ça, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette
mais des notion fois, c'est pas frustrant de réécouter quelque chose et faire comme « Ah, waouh, ça pourrait être une œuvre que je pourrais enregistrer. »
Si c'est enregistré, je peux.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que je peux prendre un enregistrement et je peux développer. Mais l'acte d'improvisation dans le contexte d'un concert, il y a quelque chose qu'on peut jamais... On va jamais revivre ça. Et quand on comprend ça, on est peut-être plus dans le présent, on est plus dans l'expérience de cette beauté qu'on partage. Et là, je trouve ça assez
beau. Parce que des fois, moi, j'en fais de l'improvisation, puis j'enregistre, puis là, je suis comme « Ah, c'est bon », puis là, je réécoute ça souvent. Puis là, je suis comme « Faudrait que je la retravaille, tu sais, pour l'amener à un autre niveau », puis finalement, je fais jamais ce travail-là, tu sais. Puis comme après des mois, tu sais, comme ça me tente pas de me rasseoir puis de la retravailler, mais je la trouve belle, mais je fais comme « Ouais, mais là, tu sais, c'est pas assez travaillé. » Donc peut-être que finalement, c'est des improvisations, puis il faudrait juste...
Mais la question, c'est à quel point est-ce que le travail va rendre la chose que tu as beaucoup aimée dans l'improvisation, à quel point est-ce que le travail va faire disparaître ce... Enfin, je veux dire qu'il y a quelque chose dans l'acte, enfin, de créer quelque chose dans le moment qu'on peut jamais retrouver après, en fait. Donc, il y a... Je vais pas dire qu'on peut pas travailler des œuvres ou des improvisations et travailler pour développer une idée. Je vais pas dire que c'est pas valable, évidemment. C'est très bien et la composition, c'est... Je me lance pas dans une critique de composition et de que tout le monde doit juste improviser. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'improvisation qui est très unique. Et ça, c'est l'élan du geste créateur qu'on peut pas retrouver après le fait. Après.
Ouais, c'est l'énergie du moment. Il y avait Stéphane Mocchio aussi qui compose de la musique plus néoclassique, qu'il appellerait. Je sais pas, ça fait un peu musique plus romantique, un peu musique de film. Puis lui, il disait justement que l'espèce d'excitation ou d'émotion qu'on a, enthousiasme qu'on a eu quand on vient de créer quelque chose, et qu'après, il faut remixer, il faut retravailler plus tard, et qu'on a perdu cet engouement-là pour le même thème, mais il faut essayer de faire confiance à quand on l'a fait, quand on l'a composé, valable.
Oui, aussi. Oui.
Parce que c'est vrai que des fois, quand ça fait un an qu'on a composé quelque chose, on est peut-être moins enthousiaste.
Oui, je comprends. Ben, c'est le processus de travail. On ne peut pas être super motivé à chaque moment. On a des moments où on doit renouveler l'inspiration, en fait. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut toujours renouveler l'inspiration de la création qu'on est en train de faire. Et pour la composition, c'est... à chaque stade, il faut retrouver quelque chose qui nous inspire, voilà.
En terminant, j'aimerais juste savoir tes prochains projets dans lesquels tu es. Il y a ta thèse de doctorat que tu vas soutenir, que tu vas remettre, mais autour de ça, est-ce que tu as d'autres projets de concerts, collaborations?
En ce moment, pas trop de concerts. Je me suis blessé un peu, donc j'ai pris un petit moment de me remettre pour quelques mois. Mais en avril, je vais jouer... j'ai un concert... j'ai déjà parlé du centième rendez-vous musical qu'on aura en mai. où je vais jouer avec plusieurs anciens résidents à la Fondation des États-Unis. Mais en avril, je vais aussi jouer au Petit Palais. Il y a un,
oui, oui.
Il y a, ça va faire partie de, d'une exposition sur Paris et la modernité. Et donc, pour ce concert-là, je vais jouer des improvisations inspirées des œuvres qui sont dans l'exposition. Donc là,
les œuvres d'art.
Exactement. Okay. Et ça, c'est... Moi, j'avais envisagé de faire des, ce que j'appelle des expo-concerts, où je fais des improvisations, des créations qui sont en lien avec des œuvres d'art exposées.
Mm-hmm.
Et donc, ça sera une occasion de commencer à faire ça. Et ce sera le 13 avril, je pense.
D'accord.
Donc ça, c'est le prochain... date. Il y aura peut-être d'autres choses avant, mais.
Oui, oui, ben, j'espère c'est... que c'est, quoi, c'est celui-ci. Ouais. Si je suis à Paris, j'aimerais bien venir voir.
Oui, oui, ben, je vais t'entendre. Essayer de diffuser des publications. Ouais.
Et ben, en fait, déjà terminé, mais je vais te remercier pour ta participation. Puis pour te remercier,
oh là là.
Je vais t'offrir un petit
sac, mon Dieu.
Café. Ben c'est coutume, café d'exception.
Ah oui, magnifique.
Je sais que tu aimes le café parce que tu habitais comme moi, c'était des arts.
Ouais.
Et à côté, il y avait la caféothèque.
Ah oui, c'est ça. Oui,
je pense que tu y allais souvent. Moi, c'était là que j'ai découvert le café fin.
Ouais,
Donc, c'est un café de traçabilité. Ça vient pas de la caféothèque.
Oui, oui, je vais pas dire au Fred qui est gérant de caféothèque que tu m'as pris ça.
Mais c'est ça, c'est eux qui m'ont... C'est là que j'ai appris qu'un café qui doit... voilà, de traçabilité, la région et tout ça. Puis la torréfaction aussi, pas trop brûlée et tout.
Oui, oui, je suis allé, Coutume, je connais, oui, oui.
Ça, ça vient du Café 19, Coffee Shop, Café Bar dans le 19e.
Ah oui, d'accord.
Pas loin de chez moi, alors...
Oh, ben merci, un petit cadeau pour c'est toi. Trop gentil. Ah, ça me... Je suis très touché.
Ouais.
Ah, merci beaucoup.
Ben,
ça m'a fait grand plaisir de parler avec toi et en fait on a eu plusieurs discussions donc je pense que c'était une continuation de ce qu'on a déjà discuté. C'est toujours super sympa de discuter et de échanger des idées, donc merci de m'avoir invité aujourd'hui et ça m'a fait vraiment plaisir.
Merci à toi, c'était vraiment un plaisir d'en apprendre plus sur ta pratique puis sur ta carrière aussi.
Merci beaucoup.